Vous écoutez, on lit pour vous.
Trisomie 21, opération bas dépareillée. Un texte de la rédaction paru le 13 février 2025 sur la page du regroupement pour la trisomie 21. Un mouvement international pour l'inclusion. Chaque année, le 21 mars, pour souligner la journée mondiale de la trisomie 21, la population est invitée à poser un geste simple, mais puissant. Porter des bas dépareillés pour célébrer la diversité et sensibiliser à la trisomie 21. Lancé par l'organisme Down Syndrome International en 2015, cette initiative est relayée au Québec par le RT21, regroupement pour la trisomie 21. L'objectif? Faire évoluer les perceptions et rappeler que la différence n'empêche pas d'avancer. Comment participer? 1. Enfilez vos bas dépareillés le 21 mars. 2. Prenez une photo de vos pieds colorés et originaux. 3. Partagez sur les réseaux sociaux avec les mots-clics JMT21, Trisomie 21, Tous inclusifs et identifiez le RT21 sur Facebook, @trisomie, sur Instagram, @trisomie21QC. Ensemble, faisons de cette journée un moment de visibilité et de solidarité pour les personnes ayant une trisomie 21 et leurs familles. Vous aimeriez vous procurer les bas dépareillés officiels du RT21 édition 2025? Ils sont disponibles sur le site trisomie.qc.ca/opération-bas-dépareillés au pluriel. La trisomie 21. La trisomie 21 est un état chromosomique congénital provoqué par la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Chez les personnes ayant une trisomie 21, on observe des particularités comme un retard cognitif ainsi que des caractéristiques anatomiques distinctives qui varient d'une personne à l'autre. La plupart des personnes ayant la trisomie 21 sont capables de s'intégrer à la société de façon autonome à l'âge adulte. Le RT21, un engagement au quotidien. Le regroupement pour la trisomie 21, RT21, accompagne plus de 350 familles à travers le Québec. Sa mission est de favoriser le plein développement des personnes ayant une trisomie 21, promouvoir leur contribution à la société, défendre leurs droits, soutenir les familles et les proches aidants et collaborer avec les professionnels qui les entourent. En participant à l'opération Bas dépareillé, vous contribuez à cette mission et à une société plus inclusive. Rejoignez le mouvement et faites une différence, un bas à la fois. C'était Trisomie 21, opération Bas dépareillé. Un texte de la rédaction paru le 13 février 2025 sur la page du regroupement pour la trisomie 21.
Les pédiatres inquiets de la conduite de véhicules hors route par des jeunes. Un texte de Nicole Ireland de la presse canadienne paru le 24 février 2025 dans Le Devoir. La Société canadienne de pédiatrie réclame une meilleure réglementation et des mesures de sécurité pour protéger les enfants qui conduisent des véhicules hors route, VHR, y compris des véhicules tout-terrain, VTT, quads et autres véhicules côte à côte. Les enfants et les adolescents représentent environ le tiers des décès liés aux véhicules hors route, assure-t-elle. Dans une déclaration publiée lundi, l'organisation plaide que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient réglementer l'utilisation des véhicules hors route de la même manière qu'ils le font pour les voitures. Selon la société, les réglementations devraient exiger que les jeunes aient au moins 16 ans pour conduire ces véhicules et 12 ans pour en être passagers. Elles devraient également rendre obligatoire le port d'un casque certifié par le gouvernement estime-t-elle, car les enfants et les adolescents qui n'en portent pas sont 5 fois plus susceptibles de subir de graves blessures à la tête ou au cou. La Société canadienne de pédiatrie indique que les véhicules hors route sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur des sentiers de terre et dans des zones boisées et ne devraient jamais être conduits sur des routes à surface dure. Pas encore prêt. Les recherches suggèrent qu'avoir moins de 16 ans est un facteur de risque de perte de contrôle d'un véhicule hors route, car les compétences développementales et cognitives nécessaires peuvent ne pas être entièrement acquises, indique la déclaration. La vigilance et les réactions appropriées aux variations de terrain comprennent l'engagement physique, qui exige une coordination mains-yeux précise, de la force physique, la conscience spatiale et une vigilance constante, écrit l'organisation. Ces habiletés développementales et la maturité cognitive nécessaires pour relier les actions aux conséquences, plus particulièrement les conséquences de comportements dangereux pour soi et autrui, et la relation entre la distance, la vitesse et le freinage, ont tendance à se développer chez la plupart des adolescents entre l'âge de 14 et 16 ans. La Société canadienne de pédiatrie demande aussi à l'industrie de cesser de commercialiser et de vendre des véhicules hors route aux adolescents de moins de 16 ans jusqu'à ce que des modifications en matière de sécurité aient été adoptées, vérifiées, standardisées et démontrées dans tous les contextes au Canada. Les provinces et les territoires devraient mettre en place des programmes de formation et un système de permis de conduire progressif pour les véhicules hors route, estime-t-elle. Les pédiatres et les fournisseurs de soins primaires ont également un rôle à jouer, soutient l'organisation, en éduquant les familles sur les risques importants associés à l'utilisation des VHR chez les enfants et les adolescents, même avec les modèles pour les jeunes. La Société canadienne de pédiatrie reconnaît que les VTT sont largement utilisés dans les régions éloignées, dans les fermes et pour la chasse et la pêche autochtones. Dans ces cas, les prestataires de soins pédiatriques devraient aider les familles à réduire le risque pour les jeunes en soulignant la nécessité d'éviter les routes pavées, de porter un casque en tout temps et de ne voyager, en tant que passager, que dans des véhicules conçus pour transporter plus d'une personne. C'était les pédiatres inquiets de la conduite de véhicules hors route par des jeunes. Un texte de Nicole Ireland, de la presse canadienne, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir.
On pensait qu'on était BFF. Un texte de Boucard Diouf, paru le 22 février 2025 dans la presse. Entre le Canada et le voisin américain, le lien amical est devenu fragile. Preuve que, comme le dit le proverbe sénégalais, si la seule proximité physique faisait les grandes amitiés, l'eau n'aurait jamais cuit le poisson. Nous sommes collectivement échaudés par le comportement du président américain. Nous sommes également nombreux à nous demander quel type d'amitié nous unit désormais à nos voisins du Sud. En fait, je devrais plutôt parler du type de relation qui unit le Canada au mouvement MAGA, car une majorité d'Américains n'adhèrent pas au discours méprisant que M. Trump tient à notre endroit. Pour la mouvance trumpiste, le Canada représente désormais l'eau alors que l'Amérique symbolise l'huile. Petite précision. Je ne parle pas ici des ressources aqueuses du Canada qui, faut-il le rappeler, feront tôt ou tard l'objet d'une prédation américaine plus agressive que ce que nous vivons présentement. Il faudra un miracle pour empêcher notre puissant ami, en déficit d'eau douce par endroit, de mettre nos lacs et nos rivières au cœur des ententes commerciales canado-américaines. Or, ces ressources aqueuses, évoquées quelquefois par M. Trump, sont beaucoup plus précieuses que les minéraux critiques qui défraient la chronique économique en ces temps de crise. On gagnerait à prévoir et répéter des stratégies de défense contre cette autre menace qui, à mon avis, est la plus importante raison pour laquelle l'Amérique voudrait nous avaler. Nos politiciens ne semblent pas comprendre à quel point l'eau qu'ils banalisent est la plus importante ressource canadienne. Le nez rivé sur leur tamis à la recherche de pépites, nos élus et chercheurs d'or risquent de réaliser tardivement que la véritable richesse canadienne est celle qui leur coule entre les doigts. Cependant, pour ne pas m'éloigner de mon sujet, je vais revenir aux relations canado-américaines. En fait, cette image qui mélange amitié, eau et huile est un emprunt à la sagesse langagière de ma mère. Il y a deux types d'amitié, disait maman. La première, c'est l'amitié entre l'eau et le sucre. Cette rencontre génère un doux et homogène mélange entre les deux composants. C'est ce type de tendresse que le Canada croyait entretenir avec l'Amérique pour toujours. À côté de ce partenariat fusionnel, il y a la moins équitable amitié entre l'huile et l'eau. Dans ce cas de figure, l'eau est toujours en bas alors que l'huile trône en haut. En plus, un simple brassage ne peut empêcher l'huile de reprendre sa place et de regarder l'eau de haut. Si on considère le Canada et les États-Unis comme deux espèces différentes, on peut aussi scruter cette histoire sous l'angle de la biologie des relations interspécifiques. Dans un temps pas très lointain, le Canada se considérait comme un pays mutualiste de l'Amérique. Le mutualisme, ou symbiose, est une association à intérêt mutuel, une mise en commun des compétences qui profitent aux deux partenaires. En langage politique, on peut le comparer au fameux « gagnant-gagnant » adoré de M. Legault. Pour faire une image, disons que dans sa relation avec l'Amérique, le Canada se voyait un peu comme l'abeille qui pollinise une plante à fleurs en échange de pollen et de nectar sucré. Il se considérait comme le fidèle ami du Nord, presque toujours aligné sur les positions américaines en échange d'une certaine dépendance économique et militaire. C'était l'époque où les présidents des États-Unis, après leur investiture, réservaient leur premier voyage à Ottawa pour honorer cette grande complicité. C'est l'histoire de Brian Mulroney chantant avec Ronald Reagan, de Jean Chrétien jouant au golf avec Bill Clinton et de Justin Trudeau si proche de Barack Obama qu'il semblait parfois imiter la démarche décontractée et le coolness du président américain. À cette époque récente, mais qui nous semble déjà très lointaine, on pouvait rester derrière notre puissant ami et même s'abriter sous son parapluie pour moins investir dans l'armée canadienne. Celui qui voyage sur le dos d'un éléphant ne craint pas d'être humecté par la rosée, disaient nos anciens. Eh bien, ce temps de la grande entente symbiotique vient de s'écrouler. Dans la vision du président Trump, loin d'être un mutualisme, la relation entre le Canada et les États-Unis est plutôt de type parasitaire. Je sais que le mot est violent, mais si on prend ce que dit M. Trump à la lettre, arriver à cette conclusion est inévitable. Après tout, il répète ad nauseam que nous n'avons rien dont ils ont absolument besoin, que nous entretenons militairement et économiquement une relation de type opportuniste avec les États-Unis. Ces propos méprisants reprennent les critères de définition du parasitisme. Autrement dit, on croyait poétiquement notre relation avec les Américains semblable à celle qui unit les plantes aux abeilles, et voilà que le président Trump nous renvoie l'image d'un ver solitaire qui profite confortablement de la protection et de la générosité de son pays. Si le constat est affligeant, la suite risque d'être encore plus douloureuse. En cause, entre un parasite et son hôte, se joue une course aux armements où chacun essaie de prendre le dessus sur l'autre pour ne pas disparaître ou se faire malmener trop durement. Sommes-nous prêts pour cette nouvelle et houleuse coévolution devant nous? Chose certaine, M. Trump a réveillé un souverainisme canadien dont on ne soupçonnait pas l'existence. On a même entendu ce néo-nationalisme reprendre à son compte le fameux « Maître chez nous » de Jean Lesage. Une question. Est-ce que ce nationalisme canadien, induit par le mouvement MAGA, aidera à mieux comprendre celui du Québec? Pas certain. Car, pour paraphraser Coluche, l'alcoolique, c'est quelqu'un qui nous dérange parce qu'il boit autant que nous. Lorsque quelqu'un te mord douloureusement, disait mon grand-père, c'est peut-être pour te rappeler que la nature t'a aussi pourvu de dents pour répliquer avec tes propres canines. Peut-être qu'un jour, nous remercierons M. Trump de nous avoir brassés aussi désagréablement. Le défunt Jean-Marc Chaput avait l'habitude de rappeler que parfois, un coup de pied au derrière peut nous faire faire deux pas en avant, une progression qui peut aider à distancer notre agresseur. Et nous avons désormais besoin de cette distanciation, car s'il y a une chose qui ne fait plus l'ombre d'un doute, c'est que le Canada et l'Amérique trumpiste ne marcheront plus jamais main dans la main. D'ailleurs, il paraît que la finale de la confrontation des quatre nations lui a donné envie de taxer les bâtons de hockey, les rondelles, les patins et les zambonis du Canada. C'était « On pensait qu'on était BFF », un texte de Boucar Diouf paru le 22 février 2025 dans La Presse.
De Montréal à New York, en fauteuil roulant. Un texte d'Éric Martel paru le 24 février 2025 dans La Presse. Il y a tellement de personnes handicapées qui ont abandonné. Pourtant, quand on va au-delà de nos limitations, on réalise qu'on a tout pour triper. Jamais je ne laisserai mon handicap m'empêcher de mordre dans la vie. Cette simple citation de François Bernier encapsule parfaitement sa philosophie. Celle qui l'a mené, avec son aide-soignant, à se rendre jusqu'à New York en fauteuil roulant, à amasser des milliers de dollars pour la dystrophie musculaire. François souffre d'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative qui entraîne l'atrophie des muscles. Il vit avec des maux de dos, une capacité respiratoire plus faible, il ne peut bouger que quatre des doigts de sa main droite. Rien de cela ne freine ses ambitions. Bien au contraire. Lorsqu'on s'attable dans sa cuisine pour réaliser cette entrevue, on remarque une carte du monde remplie de punaises. François a voyagé beaucoup plus que le commun des mortels. Il possède une maîtrise de HEC Montréal, une entreprise à succès dans le domaine de la stratégie web. On peut maintenant ajouter un exploit sportif de taille à son curriculum vitae. tu ne verras jamais François s'apitoyer sur son sort. Il veut être dans l'action, essayer plein de choses. Il a l'air de n'avoir peur de rien, décrit son aide-soignant, Jean-Philippe Dubois. Les deux se sont rencontrés en 2017. Jean-Philippe préparait une longue expédition à vélo avec un groupe et cherchait une cause à soutenir. Par l'entremise de connaissances, il a entendu parler de François, qui, avec quelques amis, rêvait d'aller au festival de musique électronique Tomorrowland. Jean-Philippe a donc amassé les fonds nécessaires pour permettre à François et son groupe de réaliser leur rêve. De là, une amitié est née. Une amitié dans laquelle les deux complices se motivent à dépasser leurs limites respectives. « On s'alimente », résume Jean-Philippe. « On trouve souvent des idées marginales et des moyens de les réaliser. » Un exemple. Il y a un an, François a fait des tours à l'intérieur du stade olympique pendant deux plages horaires de 12 heures, lors de deux jours consécutifs. Il était soit sur son fauteuil électrique, soit poussé par Jean-Philippe. Le défi peut sembler étrange en soi, mais il a permis la récolte de 12 000 $ pour la dystrophie musculaire. C'était vraiment le fun, on était fiers, mais je voulais qu'on passe à un autre niveau, raconte François. Plus loin encore. De là est venue l'idée d'accomplir un défi plus grand, un défi qui allait permettre d'amasser encore plus d'argent pour la cause. Eureka! Pourquoi pas une méga-expédition à New York? François serait installé dans son fauteuil, Jean-Philippe le pousserait. Tout simplement. Dans les dernières années, j'avais recommencé à faire du patin à roulettes, explique Jean-Philippe. Un peu comme tout le monde, j'avais oublié ce sport à l'âge de 10 ans. Mais pour ce défi, on a réalisé que c'était juste parfait. C'était juste parfait en apparence. On est parti en ne sachant aucunement si on serait réellement capable de le faire, admet candidement François. Une semaine avant de partir, on n'avait toujours pas de chaise adaptée à la situation. On était juste curieux de voir ce que ça allait donner. C'est donc devant le scepticisme général que François et Jean-Philippe se sont installés sur la ligne de départ au Parc La Fontaine en juillet 2024. « Les gens ne nous prenaient pas au sérieux, » dit François Bernier. « Ils pensaient qu'on était fous. Ça ne faisait que nous motiver davantage. » Galvanisés, ces négligés ont parcouru les premiers des 700 kilomètres qui les attendaient sur 10 jours. Chaque jour présentait son lot d'aventures. Vu l'imprévisibilité de leurs efforts, ils ne réservaient aucun hôtel. Ils s'arrêtaient où bon leur semblait au fil de leur progression. Prendre une pause était nécessaire à chaque tranche de 20 km parcourus, puisque François développe rapidement des maux de dos lorsqu'il est trop longtemps assis. Le répit plaisait à Jean-Philippe aussi, notamment en raison des montées constantes qui représentaient une élévation totale de 3500 mètres sur la durée du trajet, mais aussi de la chaleur accablante. Le mercure, oscillant autour des 35 degrés, ne facilitait en rien la tâche. Les montées, c'était quasiment du surplace, rapporte Jean-Philippe. Tu pousses, mais tu vois à peine ta progression. Je voyais François suer en malade dans sa chaise et j'essayais d'aller plus vite pour l'aider. Mes jambes devenaient rapidement très lourdes. Sur la route, le duo insolite attirait l'attention. Disons que les gens qui habitent dans des coins ruraux des États-Unis n'ont pas trop l'habitude de voir un gars en roller qui en pousse un autre en fauteuil roulant, lance Jean-Philippe en riant. On venait nous voir, on nous filmait, on nous prenait en photo. Il y a même quelqu'un qui m'a lancé de l'argent. Sur l'air d'un monde meilleur. François, lui, rapportait les détails de leur excursion sur les réseaux sociaux. Chaque jour, les donateurs se multipliaient, rapprochant tranquillement nos athlètes de leur objectif, amasser 20 000 $. Au huitième jour, leur campagne a toutefois commencé à battre de l'aile. Ils n'avaient obtenu que 200 $ de dons en une journée. Ils stagnaient à 4000 $ de leur objectif. On venait de connaître notre journée la plus dure physiquement. On commençait à se décourager. On avait l'impression d'avoir fait tous ces efforts-là pour rien, raconte François. Puis, le miracle. On ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais le matin de notre dernière journée, on s'est levé et notre objectif de don était atteint. Tout a débloqué d'un coup, c'était incroyable, évoque François Bernier. Victorieux, François et Jean-Philippe ont donc filé vers leur destination, Central Park. Leur chemin s'est arrêté sur la plaque commémorant la chanson de John Lennon, Imagine. C'est d'ailleurs sur cette aire qu'ils ont achevé leur défi. C'est ma chanson préférée. Elle était juste parfaite pour l'occasion. Ça parle d'un monde meilleur. Un monde dans lequel il y a plus de paix, plus d'amour, résume François. L'Odyssée de François et Jean-Philippe, c'était aussi un plaidoyer. Il voulait faire réaliser aux gens l'importance d'intégrer les personnes en situation de handicap à la société. Vous pourriez dire qu'ils étaient des rêveurs, mais ils n'étaient pas seuls. En fin de compte, ce sont 279 donateurs qui les ont soutenus pour un total de 24 620 $. Objectif quadruplé. À ce point-ci, vous aurez sûrement compris que François et Jean-Philippe sont du genre à toujours en vouloir plus. Ils ont donc déjà un nouveau défi prévu. L'été prochain, ils traverseront la France, de Dunkerque jusqu'à Marseille, toujours en patin à roues alignés. L'idée, c'est de toucher la mer du Nord jusqu'à toucher la Méditerranée, résume Jean-Philippe. L'épopée sera exactement deux fois plus longue que celle vers New York, mais leur objectif financier, lui, sera quatre fois plus ambitieux. C'est maintenant 100 000 $ pour la dystrophie musculaire que nos héros espèrent amasser. On a atteint près de 25 000 $ la dernière fois sans trop pousser. Si on a une stratégie, on croit pouvoir atteindre un autre niveau complètement. On s'est donné une crédibilité en réussissant notre dernier défi. Ce ne sera plus pareil, estime Jean-Philippe. C'était De Montréal à New York en fauteuil roulant, un texte d'Éric Martel paru le 24 février 2025 dans La Presse.